Et mesdames et messieurs, bienvenue à ce 5e podcast de Quiz Tonic. Ici Olivier Beauchemin.
Et ici Francis Juteau.
Et nous sommes vos deux animateurs de Quiz Tonic. Comment ça va, Frank?
En pleine forme, toi?
Hey, vraiment en pleine forme. J'adore ça. Je suis très fier qu'on ait lancé ce podcast-là. On le dit beaucoup là, depuis le début. Mais je suis content de voir que ce projet-là prend officiellement une forme que j'aime.
Oui, oui. Puis on a de plus en plus hâte d'avoir les commentaires des gens un peu partout. Donc n'hésitez pas, écrivez-nous partout. Donner des petits j'aime, des petits
Absolument.
Love. On vous aime.
N'hésitez pas aussi, il y a quelques personnes qui nous l'ont déjà fait, là, mais si vous avez des thématiques que vous voudriez qu'on aborde, écrivez-nous-les aussi sur Messenger
oui.
là, ou écrivez-nous sur Gmail, peu importe. Là. Mais des fois, nous-mêmes, on veut sortir un peu des thématiques qu'on fait dans les bars qui sont très connues, larges, puis aller dans des trucs un peu plus champ gauche, comme Pirates d'ailleurs. Là.
Oui.
Donc, si vous avez des trucs spécifiques que vous aimeriez vraiment avoir, écrivez-nous d'un coup que hein, ça se pourrait.
Mais si c'est trop spécifique, on l'apprendra pas.
On le préparera peut-être pas. Parlant de spécifique, aujourd'hui, je n'ai aucune idée de quelle est la thématique du
oui.
quiz. Ça m'excite pas mal aussi.
C'est la première fois qu'on fait ça, qu'on se dit pas d'avance.
Ouais,
exact. Ça va être quoi?
Puis Francis m'a dit que c'était différent. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être comme différence. Avant que tu me dévoiles ce punch-là, alors que les gens le savent déjà parce qu'ils ont cliqué sur l'épisode, quels sont les règlements de notre podcast?
Oui, alors notre podcast, c'est environ 20 questions de quiz qui mimiquent le système scolaire québécois. Ça va donc être à peu près en ordre croissant de difficulté et ça va passer donc de la maternelle jusqu'au doctorat.
Ouais.
Les formats des questions vont varier, on va vous les expliquer au fur et à mesure en même temps que les seuils de réussite à travers ça. Et puis, c'est pas mal ça.
C'est toujours 4 sections dans le fond.
Oui.
Hein, dans le primaire, secondaire, cégep, université. On traverse ça. On traverse ça. Bon an, mal an.
Ah oui, hein?
Je sais pas.
Oui, très belle maxime.
Hey, j'étais excité, mais je suis nerveux aussi de savoir c'est quoi ta thématique, Francis. On dirait que je sais pas à quoi m'attendre. Je vais peut-être chier mon primaire.
Ben, en fait, je te l'avais dit d'avance que je voulais une thématique qui sortait du moule, une thématique qu'on n'avait jamais fait, un peu plus champ gauche, parce que des fois, je suis tanné de monter les mêmes thématiques. Donc, ça m'excitait d'aller ailleurs. Alors, Olivier, ce soir, cet après-midi, ce matin, tu joueras un quiz qui porte sur le hasard.
OK, ah oui, OK.
Oui.
T'as poussé ta thématique hasard jusqu'à ce que ça soit ça la thématique.
Le hasard.
Ah.
Voilà, c'est ça la thématique aujourd'hui. Donc, je suis confiant qu'en fait, à la maison, il ne doit pas avoir grand monde qui se sente spécialiste en hasard.
Ouais, concerné,
ça,
là.
Oui, ça me permet d'aller un peu partout. Mais ceci étant dit, ça va beaucoup aller dans les jeux de hasard aussi.
OK. Ah oui, OK.
Ouais.
Le hasard, j'aime ça. C'est effectivement une thématique qu'on pourrait pas se permettre de faire en bar parce que c'est un petit peu. Ben, quoi que, il y a certaines
pas.
Choses qu'on pourrait le faire.
Mais tu sais, moi, à base, tu sais, le hasard, c'est aussi des probabilités, mais je suis pas tant un gars de maths ni un gambler non plus.
Ouais.
Donc, je vais pas aller trop vers les superstitions ou l'astrologie comme ça. Tu vas voir. Mais pour le fun, toi, t'es-tu un gambler?
Moi, je suis pas tant un gambler, quoique j'ai été dernièrement au casino pendant que j'étais en vacances, puis j'ai été surpris du plaisir que j'ai eu à jouer à roulette, là, tu sais, j'ai eu vraiment du fun. Mais je te dirais, non, je suis pas un grand gambler, là, c'est pas quelque chose que je fais fréquemment. Ceci dit, j'ai envie de gambler aujourd'hui, écoute, ça donne de même, j'ai mes dés de Donjon Dragon.
Il les a vraiment sortis, honnêtement, par hasard, d'un tiroir en arrière, sans savoir c'est quoi le thème, ça a l'air arrangé avec le gars des vues.
Vraiment, mais ça écoute, je sens que tu vas me demander combien je vais faire, puis
ouais,
je vais lancer de 1 à 4, savoir jusqu'à où je me rends.
OK, ça aurait été mieux un des 20.
Et là, numéro 3, donc je vais réussir mon cégep, Francis, aujourd'hui.
Ah oh, ouais? OK, parfait. Ben oui. Ben écoute, je dis ah ouais, mais honnêtement, c'est très possible.
Ça se peut très bien. Alors, on se lance.
Oui.
J'ai bien hâte de voir ça.
Parfait. Alors, on commence tout ça. Bonne chance, tout le monde, avec l'école primaire.
C'est excitant, le hasard du primaire.
Alors, Olivier, on commence avec la question maternelle. Enfin, il y aura 7 questions pour le primaire. Tu dois en réussir 5 sur 7 pour réussir.
Ouais.
1 à 3, donc ce sera des vrais ou faux. 4 à 6, des choix de réponse. Et la question maternelle, c'est une question ouverte.
Ah, OK, parfait. Maternelle, c'est ouvert aujourd'hui.
C'est ouvert aujourd'hui. Ben, en fait, ça a toujours été ouvert, à part toi, dans le dernier épisode. Il y a mis un vrai ou faux.
C'est vrai, j'ai
mis
un vrai
ou faux. Mais tu peux mettre un vrai ou faux aussi. On fait ce qu'on veut.
On fait ce qu'on veut avec la maternelle. En général, je dirais que c'est pas tout le temps...
J'ai accroché le piton.
Ah, pas de souci.
Alors, je pouvais pas passer à côté de cette question nounoun-là en maternelle, Olivier. Alors, je veux que tu choisisses, comme à la maison, un chiffre de 1 à 10, et j'en ai choisi un qui te fait perdre le point.
Okay.
Donc, t'as 9 chances sur 10 en ce moment de passer ta maternelle.
De 1 à 10 ou de 0 à 9?
De 1 à 10.
OK, puis il y en a un qui me fait perdre.
Il y en a un qui te fait perdre ta maternelle.
Hey, ça n'a pas de bon sens, ça.
C'est le hasard. Écoute, qui va décider si tu passes ta maternelle ou pas.
Tu peux-tu prendre un des 10?
Si tu veux. Non, en fait, j'aime mieux pas.
Okay.
J'aime mieux pas.
Ouais, je vais choisir ma réponse.
Ouais.
C'est vrai que ça serait mieux.
Ouais.
Francis, je vais avec le numéro 8. yes!
Bien joué, ah, Olivier! Bien. Alors, le 8 te donne le point. Alors, à la maison, j'espère que vous avez choisi un numéro pour vrai. Dernière chance pour le choisir. Celui que j'avais choisi qui perdait le point, c'était le 7.
Ah, je le savais! Ah, je le savais que t'allais faire ça.
T'en doutais?
Je me suis dit, je prends pas la chance d'aller au numéro 7. Il est trop dangereux, je sais pas.
Ben, écoute, selon des études que j'ai vues sur Internet, il y aura environ 45% des gens qui choisissent le 7 quand on leur demande de 1 à 10.
Ah ouais?
Non seulement parce que c'est un chiffre qui est associé à la chance, mais les gens se dirait, OK, j'élimine 1 et 10 vu qu'ils ont été nommés là-dedans. Mmh. J'élimine aussi les chiffres pairs vu que c'est associé à l'ordre dans la tête. Donc, il reste à ce moment-là les chiffres impairs, 3, 5, 7 et 9.
OK.
Puis, le 5, vu qu'il est pile au centre, est souvent éliminé. Donc, il reste 3, 7 et 9 qui sont plus souvent nommés.
Ah, j'adore ça! Mais écoute, j'allais dire de quoi je vais garder ça pour moi, cette information-là. D'un coup, ça soit une question.
Mais je tiens à dire, j'ai failli rajouter aussi jusqu'à 20 en me demandant si tu allais nommer le 13.
Ah oui, OK.
Vu que non seulement il est associé à malchance, mais je sais que c'est ta date de fête, le 13.
Voilà.
Et les gens ont beaucoup tendance à choisir leur date de fête ou année de fête comme numéro chanceux.
OK.
Donc, si vous avez votre année de fête dans votre NIP, allez le changer.
Ah oui, c'est une bonne idée. Oui. Continue quoi, je vais aller sur accéder, moi, tranquillement.
Alors, première année. Alors, bravo pour avoir passé ta maternelle.
Yes.
Première année. Vrai ou faux? Alors, je veux qu'on parle de roche-papier-ciseaux,
okay. Hein,
qui est un jeu de hasard, malgré
ouais.
tout.
Ben oui.
Alors, une des versions les plus populaires du jeu dans le monde entier, c'est une variation qui s'appelle roche-papier-ciseaux-hibou-yoda.
Oh.
Vrai ou faux?
Vrai ou faux, hibou Yoda?
Alors, une variation populaire dans le monde qui s'appelle roche, papier, ciseaux, hibou Yoda.
Mais on dirait que je comprendrais pas le but de ta question si c'était faux et que t'avais inventé ça, mais...
Double think pas?
Ah ouais, faut pas que je le double think, je vais te dire vrai. Ah, oh, merde, j'aurais juste dû dire que c'est de la
T'as-tu
bullshit.
T'as-tu déjà entendu parler de ça?
J'ai jamais entendu parler
ben
de ça.
Ben oui, non, c'est vraiment de vrai. Mais en fait...
Ah, je vais couler mon primaire parce que je suis trop coquille. Ah,
mais honnêtement, mais le thinking, par exemple, était pas... T'as raison, je pose pas cette question-là pour rien parce qu'il y a une variation duquel j'ai déformé ça
ouais.
qui s'appelle, visiblement, t'en as jamais entendu parler, roche, papier, ciseaux, lézard, Spock.
Ah ouais?
Qui a entre autres été hyper popularisé par Big Bang Theory.
Ouais.
Et puis, dans le fond, c'est une version à 5. Là. Dans le fond, il y a Spock qui vaporise la roche, mais il se fait empoisonner par le lézard. Le but, c'était d'en mettre 5 pour qu'il y ait plus de stratégies qui embarquent. En Europe, ils utilisent beaucoup le puits comme quatrième aussi.
OK.
Mais dans tous les cas, les théoriciens s'entendent pour dire que généralement, le meilleur joueur de roche-papier-ciseaux, c'est celui qui joue le plus aléatoirement possible, qui n'essaie pas de s'adapter à son adversaire.
Ah oui, OK. Ouais. Donc, faut pas penser, faut juste...
Faut pas penser.
OK.
Comme toi, t'aurais pas dû penser
j'aurais
trop.
J'aurais dû dire faux direct.
J'aurais dû dire faux, j'ai jamais entendu parler de ça.
Regarde, pour la suite des choses, moi, juste y aller au hasard. C'est bon,
parfait.
Ça?
Alors, deuxième question, vrai ou faux?
Oui.
Alors, Christophe Colomb n'est pas allé en Amérique par hasard. C'est le Viking Leif Erikson en personne qui lui a montré le chemin. Vrai ou faux?
Il n'est pas allé là par hasard. C'est le Viking Leif Erikson qui lui aurait montré le chemin par hasard. Christophe Colomb, mais c'est parce qu'il était... On dirait que ça se peut pas parce qu'en plus, je sais pas, peut-être qu'effectivement les Vikings étaient proches quand même, mais c'est en Espagne, Christophe Colomb, fait que le chemin... Non, il a été par hasard, je dirais. Non, c'est faux. Ben oui.
C'est complètement faux. Ouais. Écoute, ça fait deux questions que j'essaie de te pitcher ailleurs. C'est drôle. Commencer sur deux faux, t'es comme ta tête. T'es
ah
comme,
ouais, c'est ça,
qu'est-ce
ça
qui se passe? En fait, oui, c'est complètement faux parce que Leif Erikson, il a bel et bien été en Amérique avant Colomb.
Ouais.
Mais écoute, il est mort 450 ans avant la naissance de Colomb. Ah
oui,
là, les Vikings,
c'est
ça n'a
pas
rapport.
Je suis stressé
là.
Par ton quiz.
Oui, hein,
ça,
c'est stressant. Non, mais les faux, c'est stressant. Les faux, c'est stressant. Puis tu sais, Colomb, écoute, il a vraiment découvert, entre guillemets, l'Amérique par hasard. Il cherchait un passage pour les Indes. Donc, c'est un des plus grands moments historiques liés au hasard, entre guillemets, dans l'histoire. Mais, par exemple, ce que j'ai trouvé d'intéressant dans mes recherches, c'est que, tu sais, il est allé 4 fois en Amérique.
Ouais.
Puis apparemment qu'il n'aurait jamais compris qu'il était dans un nouveau continent. Il pensait toujours qu'il était dans une île asiatique.
Ah ouais?
Ouais. Donc, en tout cas, il n'aurait jamais admis que c'était pas l'Asie dans lequel il était. Puis l'Europe aurait fini par le comprendre plus tard, après sa mort, que c'était un nouveau continent.
C'est fou. Ben oui, c'est sûr, effectivement, que... C'est sûr, effectivement, qu'en tant que navigateur comme ça, t'as aucune maudite idée avant que ça devienne plus gros. Bon, ben, je suis content quand même. Ça va. C'est
oui,
super.
Ça va. Alors, troisième année, vrai ou faux?
Ouais.
Généralement, alors cache tes dés, regarde pas tes dés.
Ouais.
Généralement, la somme des faces opposées d'un dé à 6 faces est toujours égale à 7.
Ah, les faces opposées.
Les faces opposées d'un dé à 6 faces, c'est toujours égal à 7.
C'est une bonne question, ça, parce qu'effectivement, logiquement, ça se peut. Est-ce que c'est le cas pour de vrai? Je vais dire faux. Petite merde, j'aurais dû. Mais dans ma tête, je me disais, ça se peut pas. On dirait qu'une question de probabilité que c'était mieux que ça soit pas de même, on dirait dans
pourtant,
ma tête.
Pourtant, t'as calculé vite dans ta tête. Encore une fois, tu t'es pas fait confiance là-dessus parce que traditionnellement, 1 et 6 sont toujours opposés.
Ah oui, OK.
2 et 5 opposés. 3 et 4 opposés.
Hey, t'es en train de me dire que ça se pourrait que je coule mon primaire.
Ça se peut.
Dernier podcast aussi, toi aussi, t'avais des chances de. On se fait des primaires difficiles.
Écoute, c'est plus difficile à obtenir des faces opposées qui donnent 7 sur un dé à 120 faces, mettons.
Ouais, on s'entend.
Mais par contre, j'ai lu de quoi d'intéressant. T'sais, comme les numéros sont d'ordinaire figurés à l'aide de petits trous sur les dés, on va retirer du matériau, donc sur le dé, sur chaque face. Et dans le fond, plus tu retires du matériau, plus ça déséquilibre le dé. Donc, il y a un léger biais statistique.
Ah ouais, OK.
Ouais, mais bon, c'est pas assez pour accuser votre cousin d'avoir triché au Monopoly. Là, je comprends. Mais c'est ça.
Ah, ben c'est bon à savoir. Au moins, j'apprends, hein, tant qu'à passer mon primaire.
Et t'as plus le droit à l'erreur à partir de maintenant.
Oui, effectivement.
Quatrième année, choix de réponse. Quel jeu de hasard fut interdit au Québec par l'Église, qui a finalement fini par l'autoriser dans les années 60, à condition que la majorité des gains servent à la financer? En A, le bingo. En B, la machine à sous. En C, la roulette russe.
J'hésite quand même parce que je sais que l'Église a été longtemps intéressée par la roulette russe. Ceci dit, je suis pas trop sûr s'ils ont poursuivi là-dedans, tu sais, parce que c'est dangereux.
Mon choix de réponse cache.
ce sera le bingo, Francis. Ouais, je me disais,
bon.
Ça se passe bien quand même.
Ben oui, parce que le bingo, hein, y a eu beaucoup de soirées dans les sous-sols d'église, entre autres.
C'est classique, ouais.
Mais tu sais, puis c'était un peu, ça l'a joué un peu pour les femmes, l'équivalent un peu des tavernes. Tu sais, c'était un lieu de socialisation aussi, beaucoup. Ça a été hyper populaire. Puis c'est le bingo qui a sauvé beaucoup de paroisses de la faillite, parce qu'il y aurait même certaines paroisses qui auraient fait plus de 200 000 par année dans les années 60-70.
À cause du bingo.
À cause du bingo. Ah, J'ai lu ça sur des reportages de Radio-Canada. Mais tu sais, la doctrine catholique rejette l'idée de spéculer sur la volonté de Dieu. Mais quand ça servait à entretenir les églises, ben ça enlevait à l'église un petit problème de conscience.
Ah, je comprends. Ouais. Au moins, ben en même temps, c'est quand même divertissant pour les personnes âgées. Là. Ma grand-mère, c'est une grande fan de bingo. Là. Elle te tamponne des cartes là, comme une championne. Fait que là, je pense que c'est quand même une bonne activité. Là.
Mais ce double discours de l'église me rappelle un peu le double discours quand même de l'Auto-Québec, tu sais, qui installe des machines à sous partout, mais qui en même temps fait plein de pubs, évidemment, sur
ça
les problèmes de
le
dépendance au jeu.
Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, exact.
OK, alors, ça se poursuit en cinquième année. Ouais. Question à choix de réponse à nouveau. Dans l'idée du hasard, pour moi, il y a aussi le hasard des rencontres. L'idée hollywoodienne qu'on va rencontrer le grand amour par hasard. Je veux savoir, Oli, quelle application de rencontre permet aux utilisateurs d'être mis en contact avec des personnes qu'ils ont physiquement croisées durant la journée? Physiquement croisées durant la journée.
Durant la journée.
En A, Bumble. En B, Happn. Ou en C, Elite Single Amish.
Oh, j'aime tes jeux de réponse encore une fois. Oh, c'est une bonne question. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur les applications de rencontre.
On cherche vraiment une application de rencontre donc qui se sert de la géolocalisation. Il faut avoir croisé la personne dans sa journée pour être mis en contact avec elle.
C'est une bonne question. Il faut l'avoir vraiment croisé.
Ouais.
OK, physiquement. Écoute, je te dirais, j'ai déjà eu Bumble dans le passé. Puis Bumble me semble que c'est la femme qui peut choisir la personne et non pas l'homme. Il me semble que je me mélange. Alors j'aurais tendance à dire Happn, qui me semble être dans la bonne thématique aussi. Yeah!
Tout à fait.
Ouais.
Je me doutais que tu serais bon là-dedans, toi qui as déjà consommé hein, des applications de rencontre.
De l'application de rencontre, oui, un peu, mais c'est un drôle de monde, hein, quand on va se dire.
Mais pas à peine, visiblement, tu l'as peut-être
non, pas
consommé.
Non, je ne connais pas à peine, non.
Oui, c'est ça, c'est de la géolocalisation en temps réel. Il faut avoir été à moins de 250 mètres d'un autre membre à peine. Tu sais, c'est un peu pour tenter de mimiquer les rencontres fortuites de la vraie vie, là, tout ça. Mais par contre, mes recherches m'ont amené à découvrir beaucoup d'apps de rencontres étranges. Il y en a une trollée, mon gars, honnêtement. Là. Amish, ça existe pour vrai.
Mais non!
Oui, il y a aussi Gluten Free Singles. Il y a Marry Me Already pour ceux et celles qui veulent se marier avant même la première date.
Ah, OK, c'est bon. C'est
et mon préféré, c'était L'Oxy, qui est pour le 1% des plus riches. Et le slogan, c'était Tinder moins les pauvres.
Oh my God, ça se peut pas. C'est
tout pareil, hein? Je savais que ça allait te parler.
Mais en même temps, c'est vrai que les classes sociales, ça joue un gros rapport hein, dans les
c'est
rencontres
clair,
qu'on a.
Clair.
Tu sais, je pense même dans le milieu des arts, c'est sûr qu'il doit y avoir des applications pour vedettes, là. Tu sais, c'est con, mais au final, à un moment donné,
oui, ou c'est une vedette. Des services, en tout cas, là, tu sais.
Mais quand même, ah ouais, c'est ouais. C'est intense.
Tu sais, le film Simple comme Sylvain de Monia Chokri s'adresse un peu, adresse ce problème-là des classes sociales. Ouais. Là, ouais.
Ah, ben écoute, c'est pas super à date, je m'en tire, il me reste juste à remporter ma question 6.
Il manque juste le dernier, Olivier. Ouf. Alors, bonne chance.
Ouais, ouais.
Sixième année, choix de réponse. Le plus grand gros lot de l'histoire de la poule aux œufs d'or a été remporté le 25 février 2024, hein, très récemment, à $1,527,000. En comparaison, quel est le plus gros lot réclamé dans l'histoire au Canada, donc dans la loterie, remporté en décembre 2023 à Toronto avec un 6,49? Je veux savoir c'est quoi le plus grand gros lot réclamé de l'histoire du Canada.
OK.
Okay? Alors, en A, 68 millions. En B, 128 millions. Ou en C, 5000 piastres en argent puis une chronique radio à énergie.
C'est quand même pas pire, ça. Mais là, écoute, on voudrait avoir 5000 piastres en argent puis une chronique à énergie, là. Ah ouais, 68 millions ou 128 millions, finalement. On va s'entendre, là. C'est probablement ça, la vraie question. Oh, Pelay, c'est une très bonne question. C'est tough.
Ça se pourrait que tu coules là.
C'est, je peux couler avec juste un choix de réponse comme ça. Je vais y aller avec le 128 millions. Ah! Et sur ce, je coule mon primaire du hasard.
Tu coules ton primaire du hasard. T'es pas un gars qui s'achète ben des billets de loterie,
non.
Hein, Olivier?
Non, effectivement pas, non.
Ça l'a jamais atteint en date aussi haut que 120. Là,
ah oui,
même en ce moment, il y en a un qui serait vendu à 70 millions, mais pas réclamé. Donc, ça monte petit peu par petit peu, comme ça. Mais pour le choix numéro C, on salue Simon Delisle, le gagnant du premier stand-up à nouveau. Ça a été ça, son prix.
C'est
5000 pièces en argent plus une chronique en énergie.
Ah, c'est bon, ça.
Oui, c'est ça. Puis à la poule aux œufs d'or, le gros lot était remporté pour la première fois depuis 2022. Donc, ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas été remporté. Il se cachait dans quel œuf?
Le numéro 7.
Numéro 7!
Ah, yes! Tu me tu as
pas
plus?
Non,
ah, merde. Alors, ben écoute, c'est la vie. Hein. J'ai échoué mon primaire, mais je fête quand même avec les enfants.
Tout ça grâce à Ibu Yoda.
Hey, j'aurais dû penser à c'est quoi le signe de main. Je suis tellement épais. Ça va vite, c'est stressant.
Mais oui, c'est normal.
À la maison, ça se peut aussi que vous, si vous échouiez votre primaire comme moi. Mais faut être fier. Et on poursuit au secondaire pareil.
Tout à fait. On enchaîne avec le secondaire.
Bon, c'est parti. Et là, cette fois-ci, il n'y a plus de choix de réponse. Il n'y a plus de vrai ou faux.
Non.
Juste des réponses simples.
Oui, puis je te souhaite de le passer.
Ouais, j'aimerais
alors,
ça.
Alors, on poursuit cette fois-ci, Olivier.
Peut-être juste avant qu'on commence,
oui,
pour
vrai.
Les gens qui sont là pour la première fois peut-être, là, ou juste pour vous le rappeler, on a besoin ici de 3 bonnes réponses sur 5. Hein?
Tout à fait, donc, pour passer son secondaire.
Parfait, je vais tenter.
Oui. Alors, Olivier, question de secondaire 1. Alors, une question de calcul mental rapide, tu vas avoir environ 15 secondes pour répondre. À la maison, je conseille de ne pas laisser plus de temps que ça, sinon ça devient trop facile.
Ouais.
Je veux savoir en pourcentage arrondi vers le haut. Quelle est la probabilité de mourir dans un tour de roulette russe avec un revolver classique?
Dans un tour... tu peux partir le
oui,
chrono.
Oui, alors,
la
dans le fond, hein, le roulette russe, donc c'est 1 chance sur 6.
Ouais, ouais.
Alors, en pourcentage, ça fait combien? 1 chance sur 6.
Une chance sur 6. Ah, c'est ça ma simple question ici. OK, parfait. Je vais y penser. Arrondi vers le haut.
Oui.
Ouais, OK, parfait. Il faudrait pas que je la plante, hein, celle-là. Ça serait le fun de...
Moi, je l'aurais planté, je pense.
Ah, tu penses?
Ah, je suis pas bon. Là.
Ah, ouais. Ouais. Ah, ouais. Non, moi, j'ai la bonne réponse. Bon, 1 tour sur 6. Alors, c'est 16,66666, donc je vais dire 17%.
Facile, mon gars.
Sir Miller. Ah, je t'ai dit, quand c'est pas le hasard puis que c'est y penser pour de vrai, ça, je suis quand même pas pire, là, mais...
Ben, j'ai spécifié 1 chance sur 6 parce que là, j'étais comme, il va penser c'est un piège puis il va commencer à tacler d'autres affaires.
On est 5 à jouer puis là, on est...
Mais le jeu de la roulette russe, ça serait effectivement inventé en Russie. Ça daterait du 19e siècle. Mais sache que si on utilise un pistolet au lieu d'un revolver, on peut juste perdre puisqu'apparemment, les pistolets sont désignés pour chambrer automatiquement une balle dès qu'il y en a une, dès que le chien...
Et c'est pour ça que l'Église n'était pas d'accord finalement avec ce jeu-là.
C'est ça, exact. Quoi que, écoute, j'espère qu'il n'y a personne qui nous écoute qui joue à ça.
Oui,
non, effectivement. Petit potin fucké, par contre, il paraît qu'en 72, on a surpris 2 célébrités éméchées à jouer. Johnny Hallyday et Nanette Workman.
Impossible.
Je te jure.
Non.
Ouais.
Oh my God. Ça, c'est... Il faut vraiment... Ah, bah ouais,
c'est peut-être ça, Nazilène.
Et là. C'est quelque chose.
Ouais.
Ouais. On question les salue, d'ailleurs.
Secondaire 2. Alors, je veux savoir, avec quel jeu de hasard le vilain Harvey Dent dans Batman décide-t-il généralement du sort de ses victimes?
chance? C'est une bonne question, ça, sur le hasard. J'aime ça. Il va tranquillement pas vite. C'est une question unique. Je pense que j'ai la bonne réponse. J'espère juste qu'il n'y a pas quelque chose de plus complexe. Mais à date, la morale de cette histoire, Francis, tu m'as tout le temps dit d'y aller avec mon instinct. Fait que je vais y aller simplement.
Allons-y.
Harvey Dent, je pense que c'est le personnage de Two-Face. Et d'après moi, il joue à pile ou face.
C'est tout à fait bon, mon cher. Au début, je voulais demander c'est quoi le nom de Harvey Dent ou quoi que ce soit, mais là, je me suis dit, regarde, on va y aller un petit peu plus facile. J'avais déjà prévu de le changer au début.
Parfait.
Alors,
c'est pas super, ça se peut que le monde l'ait pas.
Ben
Harvey Dent, honnêtement, ça peut être compliqué.
Ben oui.
Ceci dit, quand on pense à un super-héros et le hasard, je pense que ça peut aller là.
C'est Two-Face, Harvey Dent, qui est un espèce de procureur de Gotham qui est viré crackpot. Mais je veux te parler du pile ou face. C'est encore utilisé dans plein de domaines. C'est dans le sport, mettons, football américain, on l'utilise au début des parties, etc. Mais dans des situations plus importantes, ça a été utilisé encore comme en 93 durant les élections de l'État de New, N-I-U-E, tu sais, en Océanie,
ah oui,
c'est un pays.
Niue,
en tout cas, que ça se dit de même. Il y a un juge qui est venu de Nouvelle-Zélande pour officier un pile ou face pour déterminer le gagnant de l'élection parce que c'était égalité.
C'est impossible. C'est fou, ça. Hey, le gagnant d'une élection à pile ou face.
Ouais.
Même pas de recomptage. Ouais, j'avoue que ça coûte cher des élections aussi.
Puis j'imagine que le recomptage a déjà été fait.
Ouais.
C'est plus comiquement, là, c'est aussi des pile ou face qui ont décidé que la célèbre entreprise d'électronique, ça serait nommée Hewlett-Packard et non pas Packard Hewlett.
Ah ouais,
HP, là,
PH. T'as-tu acheté ton PH? C'est peut-être moins intéressant.
Je sais pas. Peut-être qu'on trouverait le contrat bizarre aujourd'hui.
All right. Écoute, secondaire 3 à date, ça va pas si mal.
Je pense que tu vas l'avoir secondaire 3 aussi,
Question
secondaire 3. Quelle famille québécoise a remporté en 1986 un gros lot de presque 8 millions, le plus gros jamais décerné à l'époque et dont la suite tragique des événements va inspirer une série à Radio-Canada?
Écoute, je connais la réponse. Par contre, je vais te le dire, t'as tort dans ton explication. C'est 168 millions, eux autres, qui ont remporté, qui est le plus gros lot de l'histoire du Canada. Je voyais ta face dubitative.
Oui, parce que là, j'étais comme, je me mets avec les chiffres. J'étais comme, je me suis encore trompé.
Non, c'est les Lavigueurs.
Bien
et joué. Je salue mon ami Danaï qui a joué là-dedans.
Ah oui, c'est vrai.
Daniel Audet-Beaulieu qui jouait avec un des rôles là-dedans.
Beaulieu.
Audet-Beaulieu, ouais. C'était vraiment une très bonne série. Moi, j'ai adoré ça.
J'ai pas écouté.
Ah non, ouais, pour vrai, c'est vraiment touchant. C'est vraiment une très bonne série québécoise.
J'ai lu qu'il y avait eu beaucoup de critiques parce que c'était pas tout à fait véritable, mais bon, peu importe.
Ouais.
Mais ce qui m'intéresse le plus dans l'histoire des Lavigueurs, à part le fait que ça a chié, là, ben solide, c'est que le père avait perdu son portefeuille avec le billet de date non signé.
Exact.
C'est un inconnu qui l'a trouvé, il savait que c'était le billet gagnant, il l'a ramené au Lavigueur. Le fils a refusé de le recevoir parce que c'était un anglophone puis il comprenait pas ce qu'il voulait dire. Puis l'inconnu a persévéré puis est revenu le porter à nouveau.
Hey, ça, c'est de l'honnêteté en barre, hein, on va
solide.
Se dire.
J'espère qu'ils ont donné du cash un peu.
Wow. Alors, signez vos billets de loterie, la gang.
Oui.
C'est important.
Puis il y a aussi eu trois films tellement random, mais néerlandais qui s'appelaient Flodder, qui ont été traduits en Joël au Québec et qui ont été surnommés les Lavigueurs des ménages. Ma blonde connaît ça aussi. Il y a bien du monde qui ont écouté ça, apparemment.
Okay.
Mais ça n'a aucun rapport avec l'histoire des Lavigueurs. C'est juste une famille pauvre qui déménage dans un quartier riche.
OK.
Ça a pas mal moins pogné que Slapshot. Là, là.
Je vais me rajouter ça sur ma bucket list, Francis.
J'ai pas écouté ça. Okay. Bon, mais bravo, t'as passé ton secondaire. Ton primaire.
On va quand même continuer les deux autres questions, Francis.
On poursuit. Alors, si on a R4, je veux savoir, dans quel état américain peut-on retrouver la ville d'Atlantic City, qui est habituellement considérée comme la deuxième ville du jeu aux États-Unis après Las Vegas au Nevada?
Ouais. Dans quel état?
Quel état américain?
Atlantic City. Oh là 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 là. À quelque part, en dedans de moi, je sais que je pourrais l'avoir. Écoute, je vais te donner ma réponse à cause d'un épisode de How I Met Your Mother que j'ai réécouté dernièrement. Puis je pense qu'ils s'en vont à Atlantic City. C'est un gros guess, là. Puis eux autres, c'est à New York. Je vais dire l'état de New York. New Jersey?
Jersey.
Ah, c'est ça, c'est à côté. C'est New... Ben, c'est ça, ils vont au New Jersey pour aller là.
Tout
bon, écoute, quand même, au moins, je suis content de mon référent.
Oui, même, ça me vient de nulle part, mais je pense que la série Boardwalk, ça se passe là aussi.
Ah, OK.
En tout cas, peu importe. En fait, oui, c'est ça. C'est au New Jersey. Pour revitaliser la ville, les électeurs du New Jersey ont accepté en 76 l'ouverture de casinos qui sont devenus les premiers casinos légaux à l'est des États-Unis.
OK.
Donc, voilà. Puis parmi les autres grosses villes de casinos, il y a entre autres Reno aussi au Nevada qui est là, ou même une ville de Mississippi que j'ai jamais entendu parler, c'est Tunica.
Toi? Ah ben écoute.
Tunica.
On les salue, hein, s'ils nous écoutent. Voilà. Ben oui.
Dernière question sur l'R5, Olivier.
Oui.
Alors, celle-là... En tout cas, on va voir, je la trouve vraiment intéressante. Que décidait le clérotérion, une machine grecque qui a joué un rôle crucial en termes de hasard dans l'histoire?
Hein? Le clérotérion?
Que décidait le clérotérion, une machine grecque qui a joué un rôle crucial en termes de hasard dans l'histoire?
Le clérotérion, une machine grecque? Ben voyons donc, ben c'est peut-être une affaire de politique ou de le clérotérion.
Mon indice, c'est que je pense que des élèves de secondaire 5 pourraient l'avoir.
Ah ouais? Ah ouais? De secondaire 5
je
pourraient
pense.
L'avoir.
Ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds au secondaire. Mais...
Cléro, ça me dit rien comme racine en plus. Ben, je vais dire, on décidait de quel chef politique prenait le pouvoir à Athènes. Oh!
Écoute, je vais le donner, okay. Parce que c'est vraiment trop proche pour ne pas le donner. C'était la machine de tirage au sort qui était utilisée dans la démocratie athénienne pour décider qui allait former les membres du gouvernement.
OK.
Vu que les gens étaient pigés
c'est
au hasard.
Vrai. C'est pas l'Ecclésia ou de quoi, là. Ouais, c'est un nombre de citoyens au
oui,
hasard.
Oui, une partie du gouvernement, si tu veux, était formée. Une partie était élue, puis une partie était tirée au hasard.
Eh bien, t'as raison, c'est vrai. Citoyens. Je me souviens d'avoir appris ça, mais j'aurais jamais pu faire le lien. Mais ben, écoute, je suis content quand même.
Oui.
Ah, t'as été généreux. J'ai été généreux avec toi au dernier podcast aussi. Ça, c'est
non,
ça
mais je trouve que c'était la bonne réponse.
On était à bonne place.
T'as dit la bonne réponse.
En j'ai nommé
tu l'aurais dit avec confiance. Écoute, la majorité, c'était pour élire les magistrats, ben, pour déterminer les magistrats responsables de la préparation des lois. On appelait les bouleutes.
OK.
Et aussi ceux qui formaient le tribunal populaire, les héliastes.
Wow.
Ouais. Le clérotérion, c'est une espèce de bloc de pierre dans lequel on introduisait des mini-tablettes. Puis par un système de hasard, ben, on déterminait les citoyens choisis pour former le gouvernement.
Hey, c'est voilà. Fou hein, quand même. Ouais. Hein? Ah ouais, bon écoute, ben, félicitations à tous ceux qui ont fait des bons guesses comme moi. Hein. Le hasard peut aussi nous aider. Bravo à passer votre secondaire quand même.
Passer
hein?
Ton secondaire, disons-le.
Yeah! Ben, tu vois, c'est pas parce qu'on n'a pas son primaire qu'on peut pas aller au secondaire, Francis.
Tout à fait. Tout à fait. Puis on en profite pour vous rappeler, avant d'aller au cégep, hein, si jamais vous voulez un quiz privé pour vous, votre compagnie, vos amis, votre famille.
Ouais.
Écrivez-nous, questionnique.ca, tous les détails sont là, ça va nous faire plaisir de vous faire n'importe quel terme.
Exact. On commence aussi avec des bibliothèques, hein. Si vous avez un organisme, peu importe, là, n'hésitez pas à nous contacter, ça nous fait toujours plaisir.
Tout à fait. Et maintenant, on va au cégep.
Yes! Ah, pas pire, hein?
Alors, le cégep, puisque le cégep, ça représente souvent l'exploration, Olivier.
Ouais.
La recherche de ce qu'on veut réellement faire. On va y aller avec trois questions qui vont être posées selon des angles de cours différents.
OK.
Tu dois en obtenir 2/3 pour passer ton cégep.
Donc, on est vraiment dans des... Ça peut être champ gauche, là, ici.
Ça peut être champ gauche.
Quoique le hasard,
c'est déjà champ gauche.
Ouais, c'est ça, j'allais
voilà.
Dire. Parfait.
Alors, première question. Ça va te plaire, Olivier. Le hasard selon le cours de cuisine.
Oh, et ça, c'est bien me connaître parce qu'effectivement, j'aime bien la cuisine.
Ma question. Très populaire en Europe et au Québec. Quelle pâtisserie traditionnellement à base de pâte feuilletée et d'amandes implique en fait un jeu de hasard?
Ah. Tu veux-tu me répéter la question pendant le temps?
Très populaire en Europe et au Québec, quelle pâtisserie traditionnellement à base de pâte feuilletée et d'amandes implique en fait un jeu de hasard? Et j'ai un indice que je peux ajouter, que j'hésitais à te donner ou pas.
Okay.
C'est surtout dégusté à l'occasion de l'épiphanie.
Ah, ben oui, ça c'est parfait, c'est clair. Oui, je pense que c'est assez... Oui, mais merci pour ton indice, parce qu'en fait, c'était assez évident. Ben, selon moi, la galette des rois, je vais te dire.
Tout à fait.
Ah, jeu de hasard, trouver la bine.
C'est un jeu de hasard,
oui, t'as
honnêtement,
raison.
Faut trouver la fève.
Je pensais le jeu de hasard dans la fabrication, mais t'as raison, c'est dans la fabrication de où la fève va se trouver.
Et dans la consommation,
ben oui.
Dans les deux.
T'as été généreux avec ton indice,
ouais,
t'as été smart.
Tu trouves?
Ouais.
Parfait. Ben écoute, si vous l'aviez sans l'indice, encore mieux. Ouais. Ça date d'aussi loin que la Rome antique, où une fois par année, il y avait un esclave qui tirait la fève, qui devenait le roi d'un jour et à peu près tous ses désirs pouvaient être exaucés.
Impossible. Ouais. Ah ouais.
Tu sais, l'espèce de fête de fou comme ça, il y en a eu beaucoup dans l'histoire où est-ce que les rôles étaient inversés, là, tu sais.
Ah, c'est fou, ouais, c'est intéressant.
Vraiment. Après ça, il retourne à sa condition de souffre.
Il en profitait, ouais, mais c'est ça.
Aujourd'hui, c'est pas mal plus un prétexte de rassemblement familial, mais il y en a qui prennent ça au sérieux. La bonne étiquette, elle veut quand même que les découpages se fassent de façon équitable et de se partager la galette en autant de porcs que de convives, plus une pour le bon Dieu,
ah,
que
ouais,
personne ne mange.
OK. Alors, le bon Dieu pourrait être le roi,
oui,
du jour.
Oui, exact. Et il faudrait aussi théoriquement demander aux plus jeunes de se glisser sous la table et d'annoncer les noms de chaque porc, donc de chaque convive, hors de son champ de vision.
OK, faut prendre ça au sérieux.
Il y en a qui prennent ça au sérieux, mais par contre, il y a un récent sondage en France qui montre que 68% des Français trichent en laissant les plus jeunes avoir la fève.
Ah, franchement, c'est une bonne affaire.
Franchement.
Franchement, les
qu'est-ce qu'on leur apprend?
Ouais, t'as bien raison. Okay. C'est vrai, c'est
je m'excuse d'avoir crié.
Ouais,
on poursuit. Deuxième question, le hasard selon le cours de botanique.
Oh, OK.
Oui.
Ah oui, OK.
Alors, en science... Olivier, en science, il existe le concept de sérendipité, c'est-à-dire faire par hasard une découverte inattendue.
OK.
Ça arrive souvent dans l'histoire de la science, ouais. Je veux savoir, quelle invention a été inspirée à l'ingénieur suisse Georges de Mestral, alors qu'en pleine promenade, il a réalisé que les fruits des plantes de bardane s'étaient accrochés partout au poil de son chien par de minuscules crochets déformables, mais qui revenaient à leur forme initiale une fois arrachés.
Ah.
On cherche l'invention inspirée par la botanique.
Le fruit de bardane, tu vois, je suis content, j'ai appris de quoi aujourd'hui.
Ouais. Au début,
ça?
Je voulais demander le fruit, donc le nom de la plante, puis je me suis dit, je pense qu'il l'aura pas.
Ouais, c'est un petit peu corsé, fruit de bardane, j'aurais jamais pu te dire ça. Par contre, je pense avoir la bonne, le nom de l'invention qui est associé à ça. Avec ta description, je dirais que c'est le velcro.
Voilà!
Hey, un gars qui chie son primaire et qui gagne son cégep, hein, c'est.
Ça va tout le temps nous arriver. Ça va tout le temps nous arriver. C'est le velcro, effectivement, une des histoires les plus populaires connues de sérendipité.
Ouais.
Parce que, tu sais, il cherchait pas.
Sérendipité, j'adore ça.
Ouais.
Je vais noter ça.
Il cherchait pas du tout à inventer ça, contrairement à d'autres qui découvrent un peu ce qu'ils voulaient inventer par hasard. Mais en tout cas, bref. Le mot velcro tire son nom d'un mix des mots velours et crochet.
Mmh,
hein? Les deux ensemble, ça a été breveté au début des années 50. Puis ça va gagner en popularité en 84. Je sais pas si t'as déjà vu ça, là. Dans une entrevue avec David Letterman, le directeur des ventes va porter un costume en velcro et sauter d'une trampoline contre un mur en velcro.
Puis il va se fixer sur le mur.
Accroché,
ben
là.
Oui, c'est comme un peu dans l'imaginaire collectif,
ah,
cette image-là, là, j'ai l'impression.
Non, c'est bon, je suis allé voir ça, là. C'est délicieux. Merci les bardanes, hein.
Oui, merci les bardanes. J'adore ça.
Dernière question, même si déjà passé ton cégep.
Je vais quand même poursuivre. Ouais,
on poursuit.
Poursuivre, ouais.
Le hasard selon le cours de philosophie. Alors, un des plus célèbres pile ou face, entre guillemets, de l'histoire de la philosophie, c'est ce qu'on a nommé le pari de Pascal.
Le pari
donc,
de Pascal.
Un pari qui a été pris par Blaise Pascal.
OK.
Que concerne ce pari?
Dans l'histoire de la philosophie, le pari de Pascal. Pascal... c'est une bonne question, ça. De Blaise Pascal. Et hey, puis ça, c'est... mais philo, on est... il me semble que Blaise Pascal, je l'associe aussi un peu à la science. Mais
oui,
je me mélange.
Il était dans les deux.
Ouais, ouais, exact. Le pari de Pascal.
Mais la philo, c'est une science sociale.
Oui, oui, t'as raison. Ouais, quand même, hein. Je vais dire, le pari de Pascal, c'est que la Terre tourne autour du Soleil. Je ne sais pas trop. Aucune idée.
Aucune. Alors, le pari, ça concerne, c'est vraiment intéressant, honnêtement. Ça concerne, puis c'est quand même connu, il y a bien du monde qui m'ont déjà parlé de ça. Ça concerne de croire en Dieu ou pas.
OK.
C'est ça le pile ou face.
Ah, son pari.
C'est ça son pari, parce que c'est un homme qui est rempli de doutes. Puis son pari ou sa théorie, c'est la suivante. À défaut de pouvoir démontrer l'existence ou la non-existence de Dieu, une personne rationnelle comme toi et moi, Olivier, aurait tout intérêt à croire en Dieu, qui existe ou pas. Parce que dans la probabilité que Dieu existe, ben, on n'a pas grand-chose à perdre. Par contre, si Dieu existe, le croyant gagne le paradis et le non-croyant, ben, il est condamné à l'enfer.
Ah ouais.
Alors, en termes de probabilité, c'est mieux de croire en Dieu à ce moment-là.
Ah, ben écoute, je pensais pas que ce podcast-là me transformerait autant, mais c'est noté, Francis, c'est noté.
Ben, écoute, on peut quand même relativiser en se disant qu'en étant un croyant, on peut aussi perdre quelque chose en passant sa vie à culpabiliser d'avoir vu une paire de fesses avant le mariage ou quelque chose, là, tu vas dire, là.
Oh, on est rendu dans l'éditorial, là, avec ce podcast-là.
Non, mais en tout cas, je veux dire, ça, là, c'est fail comme pari, là, mais...
Je suis bien d'accord. Écoute, mon pari, au début, hein, de ce quiz-là, était de lancer un D4, savoir si je remporterais mon cégep, et Francis, je tiens à le dire... J'ai remporté mon cégep. Ah, mais je suis quand même content d'avoir pris ça, pari de Pascal. C'est noté.
Parfait. Voilà. Alors, on s'en va à l'université, Olivier.
Yes, sir.
Bienvenue à l'université.
Dernière section, Francis, la quatrième.
Tout à fait. On commence avec le baccalauréat. C'est 3 questions. Ensuite, la maîtrise, une seule question. Et le doctorat, une seule question également. Pour le bac, je te pose 3 questions.
Okay.
Mais la réponse des 2 premières questions va donc constituer un indice pour répondre également à la 3e question. Pour réussir son baccalauréat, il faut avoir 3 sur 3.
OK. Donc, 3 sur 3 et les 2 premières questions sont des indices pour répondre
tout à
la 3e. J'adore.
Alors, première question. De quoi parle-t-on ici? Il a suffi d'une seule fois pour Alina Hutchins, Selena et Jules César, alors que 638 fois n'ont pas suffi pour Fidel Castro. Je te répète. De quoi parle-t-on ici? Il a suffi d'une seule fois pour Alina Hutchins, Selena et Jules César, alors que 638 fois n'ont pas suffi pour Fidel Castro.
Wow! 638 fois n'ont pas suffi pour Fidel Castro. C'est une bonne question. Wow! Chiboulot, petit boulot. Prendre le pouvoir. Ben oui, c'est sûr, c'est pas ça. Il a pris le pouvoir, Fidel Castro.
Oui, j'ai failli rajouter Pierre Laporte dans les premiers noms. Peut-être que ça aurait pu t'aider.
Ah, OK. Mourir?
Oui. On cherchait des homicides ou des tentatives d'assassinat. Alors, les 3 premiers ont été tués, ont été assassinés. Alors que Fidel... Ben, je vais te dire, les 3 premiers... Alina Hutchins, c'est l'armurière décédée en 2021 sur le plateau du film Rust.
Donc, en
raison d'une arme qui était supposée être chargée à blanc. Selena, c'était une immense star mexicaine de la chanson qui a été étrangement tuée par sa plus grande fan.
Okay.
Puis Jules César a aussi été assassiné par un complot de magistrats.
OK.
De sénateurs, pardon. À l'inverse, la CIA a apparemment tenté de tuer Castro 638 fois.
OK, 638, c'est quand même pas pire.
Par contre, intense.
On sait pas si Jules César il aurait pas été victime de d'autres tentatives.
Je sais,
là.
Mais j'ai été chercher puis j'en ai pas trouvé.
C'est vrai.
Mais on s'entend, c'est loin dans l'histoire.
Non, mais quand même, c'est un bon lien. C'est un bon lien. 638 fois.
Ils ont essayé de le tuer avec des cigares empoisonnés, des explosifs dans les chaussures, mais le hasard a visiblement décidé de l'épargner, cette fois-là. Mais ça lui donne quand même le record Guinness du gars qu'on a essayé de tuer le plus de fois au monde.
Est-ce qu'il est inscrit dans le livre des records Guinness? C'est formidable, je suis content d'apprendre ça.
Alors, premier indice. Assassinat ou tentative d'assassinat.
Tentative d'assassinat. Parfait, c'est noté. Donc ça, je le garde en tête pour répondre à la question 3.
Deuxième question, deuxième indice. Quel mot de 8 lettres débutant par la lettre P, alors on cherche un mot de 8 lettres qui débute par la lettre P, signifie une règle de fonctionnement en science, une cause première? On l'utilise, par exemple, devant le mot « causalité ». Qui, contrairement aux théories du hasard, soutient que chaque chose est le rapport actuel d'une cause et d'un effet. Alors, on cherche un mot de 8 lettres qui débute par la lettre P et dont, dans le fond, la définition, c'est une règle de fonctionnement en science, une cause première.
Okay.
Par exemple, on l'utilise souvent devant le mot causalité.
Ouais, 8 lettres P. Devant le mot causalité ou...
Ouais.
Est-ce que ça peut être le mot causal, mettons?
Non. Ben oui, peut-être.
OK. Je vais dire... Ben écoute, je vais faire un guess. Je vais dire principe. Oh!
C'est bon!
Je me disais principe causal.
Oui,
c'est justement peut-être plus...
Je pensais plus à principe de causalité,
principe causal, c'est bon aussi.
Ouais,
ça a fallu peu.
T'es allé chercher ça loin?
J'ai gratté.
Oui, je me demandais comment arriver à cet indice-là, parce que je l'aimais beaucoup. Alors oui, c'est principe. Il existe plusieurs principes en science, entre autres le principe d'Archimède, qu'on nomme aussi la poussée d'Archimède, qui aurait découvert pourquoi une masse immergée dans l'eau l'a fait déborder, notamment quand il était dans sa baignoire. Un autre exemple de sérendipité, il aurait pensé à ça quand son bain aurait débordé.
Okay,
il serait sorti en criant « Eureka! »
Eureka, voilà.
Ouais, voilà. Premier indice, assassinat. Deuxième indice,
principe.
Principe.
OK. Principe et assassinat.
Ouais.
Où est-ce que tu t'en vas?
Bonne chance. Donc, dernière question du baccalauréat. J'ai aussi un indice au besoin, on va voir.
OK.
Dans quelle ville... On cherche une ville. Dans quelle ville le hasard a-t-il joué un immense rôle au 20e siècle alors qu'un mauvais tournant à bord d'une automobile aurait mené à environ 19 millions de morts.
Un mauvais tournant dans une automobile.
Ouais. Dans quelle ville le hasard a-t-il joué un immense rôle au 20e siècle, alors qu'un mauvais tournant à bord d'une automobile aurait mené à environ 19 millions de morts? Je vais te rajouter un indice dans réflexion, si t'en as besoin.
Moi, j'ai pas besoin de l'indice. Parfait. Et je connais la réponse.
Je suis bien content dans ce cas-là.
Je pense. Parfait. C'est... Mais écoute, tu pourrais rajouter l'indice peut-être juste avant que je réponde, là, pour si les gens ont besoin à la maison peut-être, ou...
Écoute. Ouais,
ouais, comme tu veux, moi, je...
Ah oui, alors voici mon indice. Okay. Ça l'a mené à la Première Guerre mondiale.
Oui, c'est ça. C'est effectivement, donc c'était la réponse pour moi, c'est Sarah Gévaux. Et Principe, c'est le nom de l'assassin, si je me trompe
exact.
Pas, qui a voulu tuer l'archiduc François Ferdinand.
Est-ce que donc les indices t'ont aidé?
Mais je te dirais que Principe, on dirait que je suis resté stické dans ma tête. J'étais comme, c'est qui le chef d'État qui s'appelle Principe ou quelque chose? J'avais déjà entendu ce nom-là. Mais félicitations, c'est très bon, ça, effectivement.
Merci,
c'est
ce qui
est mené à la Première Guerre mondiale, ça que tu disais. Ouais, c'est
oui,
ça,
c'est ça, la... c'est à Sarajevo, lors des attentats de Sarajevo, avec l'assassinat du duc François Ferdinand.
Ouais, ouais.
Écoute, il y a eu une première tentative d'assassinat. Ils ont lancé une bombe sur le deuxième, le mauvais char, dans le fond.
Ouais.
Et là, ils ont choisi de changer le trajet. Mais le chauffeur de François Ferdinand a comme pas été informé. Et il a suivi l'ancien trajet. Donc, il a fait un mauvais tournant, contrairement au reste. Et Gavrilo Princip, qui était un de ceux qui essayaient de le tuer, il y a deux versions qui existent. Soit qu'il est allé sur l'ancien trajet en espérant que finalement, il ne soit pas changé. Ou il serait allé dans un délicatessen parce qu'il était dépité. Il serait allé chercher un sandwich, là. Et par hasard... Il a vu François Ferdinand arriver là, alors qu'il avait abandonné son projet de le tuer. Il l'a tué et il a déclenché en même temps la Première Guerre mondiale à cause d'un mauvais tournant.
J'avais entendu dire effectivement que c'était un peu un hasard. C'était pas si clair que ça, la suite d'événements là, qui avait eu lieu pour ça. Ah ouais, formidable. Écoute, je suis content. C'est très bien, très belle construction. C'est le fun à faire.
Merci, mon cher.
Pas facile, par contre. Il a vraiment fallu que Principe, ça me dise quelque chose.
C'est
parce
ça.
Que...
Écoute, mais... ça a été tough d'arriver à Principe dans ma question.
Exact.
Comme... Mais écoute, autre coïncidence, je te dis, la plaque de l'auto de François Ferdinand, elle aurait apparemment la même date que celle de l'armistice, donc de la fin de la Première Guerre mondiale. C'est A11-11-18. Donc, l'armistice allait avoir lieu le 11 novembre 1918.
Hé là là, par contre, pars-moi pas, je suis un peu complotiste, Francis. Ça, là, c'est-tu vraiment eu lieu, la Première Guerre mondiale?
OK. Je te parle pas là-dessus, certain.
On passe à la maîtrise, donc.
Oui, alors que tu as échoué ton mais t'as failli le passer. Écoute, t'as juste raté ta première question.
C'est vrai.
Maîtrise. Alors, pour la maîtrise, c'est une seule question, mais qui va nécessiter plusieurs réponses.
Ouais.
Alors, on y va à fond dans les jeux de hasard cette fois-ci. Je vais te nommer des jeux de hasard ou des jeux de cartes, puis tu vas me nommer pour chacun l'élément le plus fort ou le plus élevé. Je vais spécifier à chaque fois ce que j'ai besoin.
Okay.
Écoute, je vais t'en nommer 9, tant qu'à faire. Il y en a des toughs, par exemple, là-dedans, mais je vais t'en nommer 9. Tu dois en avoir 6.
6 sur 9 pour réussir.
Sur 9.
Parfait.
Ouais.
Et là, c'est ça, c'est tout des jeux de hasard, jeux de cartes.
Ou jeux de cartes. Okay. Il y a des jeux de cartes que c'est un peu du hasard raisonné, là, tu sais,
Mais si tu restes que tu piges des cartes.
Ouais. Alors, je t'aurais dû prendre un crayon aussi, puis un papier pour te noter des affaires, mais c'est pas grave.
Nomme-moi-la une première fois, puis je vais essayer de
Alors, on cherche le nom de la main la plus forte au Texas Hold'em Poker.
OK.
Le chiffre recherché au Blackjack.
Ouais.
La carte la plus forte au jeu de la bataille.
Mm-hmm.
Le chiffre recherché au craps quand on lance 2 dés. La carte la plus forte au baccarat. La carte la plus forte au trou de cul.
Mm-hmm.
La carte qui vaut le plus de points à la dame de pique. Le chiffre le plus haut à la roulette, même si sa valeur n'est pas nécessairement supérieure aux autres. Je cherche juste le chiffre le plus élevé sur une roulette.
Dans un truc de roulette, OK.
Le chiffre le plus haut au bingo, même si sa valeur n'est pas aussi plus élevée que les autres.
OK, parfait.
Ça, je me suis dit, là, je voulais que ce soit top. Ça va être top. Moi, j'aurais été mauvais, très mauvais, parce que je suis pas un gambler. Si vous êtes bon dans les jeux de cartes, félicitations, mais honnêtement, je trouve pas ça facile.
Ah ouais, c'est pas évident. On part peut-être le chrono pour un dernier 10 secondes de réflexion. J'en ai plusieurs que j'ai déjà en tête en ce moment. Il y a quelques questions que j'ai, notamment par rapport à la bataille, mais j'imagine que la bataille, tu vas y aller avec les règles du casino là, typiques.
Ouais.
Commençons.
J'espère pas avoir fait d'erreur parce qu'il y a tellement de variations sur des jeux de hasard en plus, mais on y va.
On se lance.
Vous nous écrirez s'il y a des erreurs, quoi que ce soit.
Absolument.
Alors, Olivier, le nom de la main la plus forte au Texas Hold'em Poker?
Je vais dire la floche royale.
C'est bon?
Oui.
Donc, du 10 à l'as de la même couleur.
Oui.
On poursuit avec le chiffre qui est recherché au Blackjack.
Alors, ça ici, c'est le 21.
C'est bon. Alors,
ça,
on
ça,
veut
ça
pas.
Ça se passe pas trop mal.
Basté 21. Ouais. Ça partait bien. Ça se corse un peu plus, selon moi. La carte la plus forte au jeu de la bataille classique, de, selon mes recherches.
Ouais, de la bataille classique. Je vais considérer que le Joker n'est pas présent dans un deck de bataille régulier. Et je pense que... Oh, est-ce que c'est l'As ou le Roi? Je pense que je vais y aller avec... je vais y aller avec... Je vais y aller avec l'As. Yes.
C'est bon.
J'ai failli considérer que c'était un 1, mais l'As, c'est pas mal tout le temps considéré comme plus haut que le Roi.
Très bien joué. Ensuite, c'est Roi, Dame, Valet.
Ouais.
Le chiffre qu'on cherche au craps, c'est quand on lance 2 dés et on peut accepter 2 réponses.
OK.
Ouais, fait que t'as 2 chances.
Je connais pas du tout le craps. Je vais dire Snake Eye, donc 1-1, donc un 2.
Non. On cherchait le 7 ou le 11.
Le 7 ou le 11.
Ouais, okay. C'est principalement le 7 qu'il faut obtenir, mais il y a aussi le 11 qui fait gagner dans certains cas.
Voilà. Ah, OK, parfait.
Alors, t'es à 3. La carte la plus forte au Baccarat.
Au Baccarat, la carte la plus forte. Hey, je sais tellement pas c'est quoi le Baccarat. La carte
un des jeux classiques dont on n'a aucune idée. Hein.
Ouais,
mais c'est même au Casino de Montréal aussi.
Ouais, exact. Bonne question. Je vais dire le 10.
Bravo.
Ben, c'est parce que il me semble que genre les figures sont pas bonnes dans un jeu de casino. C'est peut-être celle-là. Fait que c'est mon
guess. Tout à fait. Chaque carte vaut sa valeur nominale, dans le fond, d'un 1 à 10.
Ouais.
Les figures valent 0 puis l'as 1.
C'est ça. C'est dans ma tête il y a un jeu de casino qui existait qui était comme ça. Alors,
bravo.
Gros guess, mais écoute, le hasard.
Mais écoute,
hein.
Dans ce cas-là, je pense que tu vas réussir à passer la maîtrise.
On va voir.
La carte la plus forte au trou de cul.
Au trou de cul, c'est le Joker. Si le Joker est présent, sinon
je vais
dire le 2.
Si le Joker n'est pas présent.
Le 2, sinon.
Effectivement.
Ouais, effectivement. Oui, parce que le trou de cul, il y a beaucoup de règles différentes.
C'est vrai, c'est vrai.
Le Joker est-il présent dans le jeu? Le 2 est-il présent? Même, il y a certains jeux de... C'est drôle parce que j'ai téléchargé dernièrement un jeu de trou de cul sur mon cellulaire. Il y a des versions, en fait, où le 2 n'est pas nécessairement une carte que tu peux jouer en tant que telle. Il faut que tu la mettes avec un roi. Fait que c'est deux rois ensemble.
Ah oui, OK.
Alors, il y a vraiment beaucoup de manières de jouer. Mais effectivement, j'aurais tendance à dire le 2 ou le Joker. Là, ouais.
T'en manques juste un, Olivier? La carte qui vaut le plus de points à la Dame de Pique.
Ah, écoute,
c'est là que ça se passe.
Je salue ma grand-mère que j'ai nommée, qui est à Saint-Magloire-de-Bellechasse, et chez qui on joue au Pique. Alors, nous, on n'appelle pas ça la Dame de Pique, mais on joue au Pique. Et des soirées complètes, mon Frank, là, à faire des levées qu'on appelle et compagnie.
Fait que ça se passe.
Alors,
là.
C'est l'As de Pique, la carte la plus forte dans Dame de Pique. Ou si c'est une autre version, là, Dame de Pique, tu vas me dire?
C'est Dame de Pique, moi, que j'ai.
Ah, OK, mais tu peux me donner l'erreur. Peut-être que c'est pas exactement le même jeu là, que j'ai.
Okay.
Mais c'est le Pique à tout. En tout cas, c'est l'As de Pique, là, si je me trompe pas, qui est le plus fort. Mais peut-être que c'est Dame de Pique.
Ben, écoute, ce sera à revérifier par la suite, mais pour l'instant, je te le donnerai pas, à moins que tu sois sûr à
100%. Non, c'est correct.
Que Dame de Pique, c'est aussi c'est la Dame de Pique
ça serait,
qui est le plus fort.
Ça serait logique.
En tout cas,
on verra.
Voilà. Ça se poursuit. Le chiffre le plus haut à la roulette, même si sa valeur n'est pas supérieure aux autres, indice que ça peut faire, en fait, ça peut t'aider. C'est aussi le multiple par lequel on multiplie ses gains si on met sur un seul numéro.
Ouais.
Ouais.
OK. À la roulette, sur un seul numéro, je vais dire 32.
Non. Très près, mais on cherchait 36.
36, ah, d'accord.
Écoute. Et finalement, le chiffre le plus haut au bingo, même si sa valeur n'est pas supérieure aux autres.
Hé là 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 là, et ça c'est bien parce que j'ai acheté souvent des gratteux bingo. Je pense que c'est 15 chiffres par B-I-N-G-O, alors 15, ça serait 75. Non, c'est pas le haut 75.
Ça se rend jusqu'à 90.
Ah non.
90 boules qui se passent.
Ah mais attends, mais dans un jeu de bingo, mot caché, ou pas mot caché, de gratuit, il me semble que c'est 75. Ah mais écoute,
je me demande si je me suis pas trompé, mais j'ai lu que c'était avec 90 boules.
Ah mais peut-être que le bingo typique, là, c'est ça, puis que c'est différent dans un jeu... ben, puis peut-être c'est vraiment moi qui dis de la merde, hein, on s'entend. Je suis en train d'essayer de défendre ma maîtrise avec la Dame de Pique et l'As de Pique. Mais prends le temps de regarder. Mais en tout cas, pour l'instant, ça me donnerait un 5 sur 9, si je ne m'abuse.
Je savais que cette question-là reviendrait me hanter. Mais non, t'as raison, ça se joue avec 90 boules. Mais honnêtement, je regarde les cartes que j'ai là et il n'y a rien qui va plus haut que 75. Donc, je vais dire, c'est bon, 75.
Acceptons les deux. Bon,
non,
écoute.
Je vais l'accepter, 75.
Ah oui, OK.
Parce que peut-être que dans le 90 boules, il y a d'autres choses que des numéros.
Ah, des doublons, des trucs. Allons, écoute, on regarderait, mais il y a
Mais je te le laisse. Tu passes. En plus, il y a la question de l'As de Pique qui sera à éclaircir par la suite, ouais, où vous nous écrirez.
On écrira en commentaire. De... Ben, si vous jouez au Pic à tout, qui est une variante de la Dame de Pique, c'est l'As de Pique. Ceci dit, encore une fois, il y en a tellement des variantes, ouais, de ces jeux-là. C'est, là, c'est pas facile.
Variante.
Et là, là,
mais
là, là.
Mais je savais pas. Finalement, tu connais plus les jeux de hasard.
Ben, je suis surpris, mais le Baccarat, tu vois, je m'en suis tiré, wow, avec une belle bravo, chance, encore bravo une fois.
Alors, question de doctorat, Olivier. Ça se peut même que tu l'ailles, honnêtement, celle-là aussi, parce que c'est quasiment c'est la question pour laquelle j'ai choisi le hasard. Je voulais parler de ça.
Okay.
Et en bord, c'est plus difficile d'en parler vu que c'est plus long. Donc, on se permet une question à développement. Ça veut dire qu'on cherche une réponse qui nécessite plus qu'un seul mot.
Ouais.
Voici une énigme de probabilité qui a été popularisée dans plusieurs émissions. Mmh. On cherche deux éléments de réponse, le nom du problème et la solution du problème.
OK.
C'est un problème de probabilité. Donc, dans ce problème, un candidat de jeu télévisé est placé devant trois portes fermées qui contiennent un prix à gagner. Derrière l'une de ces portes se trouve une voiture et derrière chacune des deux autres portes se trouve une chèvre. Le joueur doit tout d'abord choisir une porte. Puis le présentateur télé, qui sait ce qu'il y a derrière les portes, ouvre une autre porte qui cache une chèvre.
Ouais.
Le candidat a alors le choix entre garder la porte qu'il a choisie initialement ou changer de porte. Selon les probabilités, il doit changer de porte pour augmenter ses chances.
Absolument.
Donc, quel est le nom du problème et pourquoi est-ce que ça augmente ses chances?
Bon, le nom du problème... Ouais, je vais laisser un petit 10 secondes aux gens en réflexion. Mais on dirait que dès que tu m'as parlé d'une énigme populaire, j'étais comme, ah, il me semble que c'est là qu'il va aller.
Ouais,
là.
Ouais, ouais.
Et puis moi, ça m'a jamais rentré dans la tête, même je me le suis fait expliquer souvent. Je pense que je connais la réponse. Puis encore là, on dirait que j'y crois pas à cette réponse-là parce que ça n'a pas de sens.
Mais je suis tellement pas un gars de maths que j'ai, ouais, peur de pas savoir interpréter, non, ta réponse. Fait qu'on va y aller.
Il me semble que la probabilité initiale est de 1 chance sur 3 pour la porte qu'il a choisie. En ouvrant une autre porte, cette porte-là garde la probabilité initiale de 1 chance sur 3, mais l'autre porte qui n'a pas été ouverte, elle, devient 1 chance sur 2, puisqu'il y a maintenant 2 portes devant la personne. Et donc, il doit changer de porte, parce qu'en fait, cette porte-là a 1 chance sur 2 au lieu de 1 chance sur 3. Maintenant, après
l'explication
ça...
L'explication est bonne.
Ouais.
Et là, c'est pour ça que j'ai rajouté le nom aussi, parce que je me suis dit que ça va peut-être être
plus
facile,
corsé,
vu que c'est
je
connu.
Je veux dire, l'énigme des 3 portes!
Belle tentative! Non? Alors, c'est le problème de Monty Hall.
Monty Hall.
Monty Hall, qui était un célèbre animateur de jeux télévisés aux États-Unis. Le problème a été hyper popularisé. C'est peut-être là que tu l'as entendu dans Brooklyn Nine-Nine aussi. Je sais que tu es un fan de Brooklyn Nine-Nine,
ouais,
il me semble.
Oui, je l'ai écouté effectivement, oui.
Ou bien dans le roman Le bizarre incident du chien pendant la nuit de Mark Haddon, dans lequel je l'ai découvert. Tu l'as, somme toute, bien expliqué. Je ne suis pas le meilleur pour vulgariser les maths, mais la meilleure façon que j'ai trouvé de l'expliquer, c'est en y allant avec le pur dénombrement. C'est-à-dire que si on admet que la voiture est derrière la porte C, il y a donc 3 cas possibles. Si on choisit la porte A, le présentateur ouvre la porte B,
ouais,
on change, on a la voiture.
Ouais.
Cas 2, on choisit la porte B, le présentateur ouvre la porte A,
ouais,
on change, on a la voiture.
Exact.
Cas 3, on choisit la porte C, le présentateur ouvre la porte A ou B, on change et on a la chèvre.
Ouais.
Donc, 2 chances sur 3 en changeant d'obtenir la voiture, même, ouais, si c'est hyper contre-intuitif comme problème.
Effectivement.
Je suis tombé dans des loopholes de problèmes, mon
je
gars.
Je comprends, moi aussi, c'est tough à expliquer, effectivement, parce que tu ressens la pression que c'est 1 chance sur 3 tout le temps.
Des, ouais, bien plus compliqués que ça, mon, ouais, gars, que j'étais comme, je pourrais même pas en faire une question parce que ça va être tellement compliqué. Mais par contre, le problème de Monty Hall, ça a été testé récemment dans la télé-réalité Survivor. Puis les 2 fois, la personne n'a pas changé son choix, alors que les gens disaient « change ton choix ». Et ils ont gagné,
ils ont
en
gagné
gardant
quand même en
les
gagne.
2 fois. Donc, dans certains cas, fuck les probabilités, faut y aller avec le hasard puis suivre son guts.
Et suivre son instinct. Ben écoute, je suis content qu'on ait exploré ça ensemble, le hasard.
Ah,
félicitations pour le quiz, très bien. Et bravo à tous ceux qui ont réussi leur doctorat. Oh! Non, honnêtement, j'ai adoré ça. C'était,
oui,
super intéressant.
Parfait.
Puis je trouve ça le fun qu'on puisse se permettre, justement, en podcast, d'aller dans des endroits un peu champ gauche comme ça. J'espère qu'à la maison aussi, vous avez aimé ça, aller dans autre chose que le classique Disney ou Harry Potter.
Ben oui.
C'est intéressant aussi.
Faut le voir comme on apprend des choses en même temps, fait que tant mieux. Puis j'en profite pour saluer tout le monde qui joue nos quiz à travers le Québec, que ce soit à Montréal, à La Chute, à Mont-Laurier, à Saint-Hyacinthe, à Sept-Îles, à Sainte-Thérèse, à Sainte-Julie, à Percé, à Mascouche, à Chicoutimi, à Lac-et-Chemin, à Saint-Bruno, à Saint-André-de-Kamouraska et à Terrebonne.
Absolument. Merci tout le monde de jouer avec nous aussi au podcast. Abonnez-vous, laissez-nous des commentaires, comme on disait au début. Ça nous fait toujours plaisir de vous entendre. Et Francis, sur ça, je te dis à bientôt. On se revoit sur un autre podcast.
Ciao, puis allez pas au casino, vous allez perdre.
Non, non, non. Suivez votre instinct et les probabilités. Bye-bye!